Avant de plonger dans cet épisode, je voulais partager quelque chose avec vous. Chaque premier du mois, j'envoie une newsletter dans laquelle je partage régulièrement des conseils bien-être, des astuces de développement personnel et des news en avant-première. Du contenu exclusif que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. Si vous appréciez ce podcast et que vous souhaitez approfondir ces sujets entre deux épisodes, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans le descriptif. Alors, faites-le plein de bienveillance et rejoignez-moi dès maintenant.
Mais en fait, c'est totalement possible, c'est à la portée de tout le monde. Si je l'ai fait, s'il y en a plein qui le font, c'est que c'est possible. Faut avoir du courage, c'est pas facile, je dis pas le contraire. Mais vraiment, c'est possible et se lever le matin excité à aider à travailler, ça n'a pas de prix, quoi.
Bienvenue dans Vers d'eau, saison 2. Pour rappel, Vers d'eau, c'est un podcast sur la positivité et la confiance en soi. Si tu cherches une dose de bonne humeur et des astuces pour développer ta confiance en toi, tu es au bon endroit. Dans cette saison 2, j'invite différentes personnes à me parler de leur parcours et de développement personnel. Et je continuerai également à vous parler en solo, mais d'une manière différente. Allez, go ! On est parti pour l'épisode du jour. Burnout, bore-out, brown-out. Ces mots vous semblent familiers ? On en parle de plus en plus. Aujourd'hui, changer de profession est devenu monnaie courante, même si encore beaucoup de personnes n'osent pas franchir le pas. Mais connaît-on vraiment les bienfaits de la reconversion ? À l'inverse, connaissons-nous les conséquences de rester dans un travail qui ne nous apporte rien ? Aujourd'hui, je reçois Alexandra, coach spécialisée en reconversion professionnelle. Elle répond à toutes mes questions sur cette fameuse étape. Comment sait-on que l'on doit se reconvertir ? À quel moment ? Comment doit-on agir ? Quels sont ses bienfaits ? Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter mon entrevue avec Alexandra.
Bonjour Alexandra, comment vas-tu ?
Très bien et toi ?
Bah écoute, ça va très très bien. Cette belle saison d'automne. C'est hyper beau, je sais pas s'il fait beau chez toi.
Ouais, pareil, je suis sur Grenoble et il y a un grand soleil ce matin, donc c'est agréable.
Non, t'es sur Grenoble ?
Ouais, pourquoi, toi aussi ?
Mais ouais, on aurait dû se voir.
Écoute, bah, je suis alitée, donc j'aurais pas pu.
Oui, mais, c'est vrai, t'es alitée. Parce que d'ailleurs, félicitations, tu es enceinte.
Merci, mais en effet, on se prend un café, un de ces quatre dans ces cas-là.
Mais ouais, mais j'ai pas tilté que t'étais sur Grenoble, bon bah voilà. Peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Avec plaisir. Du coup, je suis Alexandra, je suis actuellement coach et j'accompagne les salariés qui sont épuisés ou frustrés dans leur job à trouver ce job qui les épanouira plus. Mais avant ça, j'avais une autre vie, j'ai été salariée, je suis passée par le stade épuisée, frustrée. Puis j'ai fait 8 ans en logistique dans l'agroalimentaire.
Ah oui, rien à voir.
Je me suis retrouvée là un peu par hasard, je savais pas quoi faire au lycée, école d'ingénieur, pour pas se fermer de porte, et puis en essayant de pas me fermer de porte, à un moment donné, je me suis retrouvée en logistique, et comme beaucoup de gens, à un moment donné, il y a eu cette question de sens, qu'est-ce qui fait sens pour moi, et me battre quotidiennement pour éviter des ruptures ne faisait aucun sens, donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, et c'est comme ça que je suis tombée, après avoir travaillé sur moi, sur le métier de coach. Et que je me suis du coup reconvertie pour accompagner les personnes à également se reconvertir. Et comme moi, atteindre cette situation où le matin, on se lève, on est excité à l'idée d'aller travailler. Et quand on est excité à l'idée d'aller travailler, tout va mieux ensuite dans la vie. Donc voilà pour moi. Et sinon, je suis également maman d'une petite Pauline et actuellement enceinte du deuxième, du coup, qui devrait pas tarder.
Et oui, bah ça fait une belle présentation. Du coup, tu as répondu à plein de questions en une. Mais bon, on va développer un peu.
Il n'y a pas de souci.
Tu es coach en reconversion, justement. Ce qui me prend un peu la tête, justement, la reconversion. Moi, je me suis déjà reconvertie plusieurs fois, mais toute seule. Quels sont les bienfaits du fait de se reconvertir ou pas, d'ailleurs ? Comment on sait qu'on peut se reconvertir ? Comment on sait que c'est le moment ? Comment on sait que nous, on devrait changer de métier ou pas ? Voilà.
Alors, j'aime bien différencier, donc il y a la reconversion où vraiment on fait un changement à 360, et ce que j'appelle la réinvention, où on va peut-être juste changer d'environnement, ou déménager, ou améliorer son quotidien pour remettre du sens dans son quotidien. Donc il y a ces deux cas-là. Dans tous les cas, si on se pose la question, c'est qu'il faut changer quelque chose, parce que quand il y a doute, c'est mauvais signe, et si on se pose la question, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans la situation actuelle. Donc j'ai envie de dire, dès qu'on se pose la question, déjà, c'est que pour moi, il faut changer quelque chose. si on se pose pas la question, qu'on est motivé à y aller au travail, continuons comme ça. Mais dès qu'il y a cette notion de bah quand je vois des amis, ça me saoule de parler de mon boulot, je suis pas fière de mon boulot, le soir je rentre, je suis fatiguée, la journée m'a épuisée, le matin j'ai aucune envie d'aller travailler. Bref, dès qu'il y a un peu toutes ces sensations d'épuisement, de non-motivation, c'est vraiment des signes à prendre au sérieux qu'il faut changer quelque chose. Alors, est-ce que c'est la reconversion ou se réinventer ? Là-dessus, ça dépend du coup de ce qui vous pose problème. Si c'est l'environnement de travail qui pose problème, par exemple, j'ai une heure de transport tous les jours, ça me pose problème. J'ai un manager toxique, ça me pose problème. J'ai des collègues, une mauvaise ambiance de boulot. Bref, si c'est vraiment lié à l'environnement de travail et pas aux missions quotidiennes, dans ces cas-là, un changement de poste dans une autre entreprise, dans un autre environnement, pourrait répondre simplement déjà à ce manque de motivation. Par contre, si le fond du problème, c'est on se dit vraiment mes tâches au quotidien, ça me plaît pas du tout, et je sais que j'aurais beau changer d'entreprise, changer de ville, faire autre chose, bref, trouver un meilleur équilibre vie pro vie perso, bah il y aurait toujours ces tâches qui ne plaisent pas, qui n'ont pas de sens. Là, dans ces cas-là, c'est le moment où il faut commencer à penser reconversion, parce que l'avantage de la reconversion, c'est de se dire bah je vais aller dans un poste où au quotidien mes tâches m'animent et me motivent.
Très bien. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a amené à te... Enfin, si tu peux le dire, en tout cas, personnellement, ce qui t'a amené à te reconvertir ? Et surtout en tant que coach, du coup, parce que ouais. T'as envie justement d'aider les autres à se reconvertir.
Exactement. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Mm-hmm. Alors, pour ma part, par exemple, je ne me suis pas fait accompagner. Et en général, quand on ne se fait pas accompagner, du coup, le chemin est un peu plus long. Mm. Donc, il y a eu différentes étapes. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai découvert le développement personnel et j'ai été ultra fan. Et surtout... j'étais vraiment fascinée par le métier des personnes qui écrivaient les livres, donc le métier de coach, en me disant, mais ils ont un job de rêve, leur job, c'est d'inspirer les personnes à aller au-delà de leur capacité, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bref, c'était un job de rêve, mais quand on regarde un peu les biographies des coachs, il y en a aucun qui a fait une école d'ingénieur. En général, c'est plus des études de psychologie, des doctorants, tout ça. C'était vraiment un truc, ce serait le rêve, mais c'est impossible. On garde l'idée au fond de la tête, mais vraiment impossible. Et je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. Et là, j'ai découvert les coachs de dirigeants. Donc, parce que dans mon entreprise, les managers étaient de temps en temps coachés, du coup, par des coachs de directeurs, de dirigeants, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est pas du développement personnel, mais ça reste du coaching, ça reste ce que j'aime. Faut que j'arrive à viser ce métier-là. Et quand on regarde les coachs de dirigeants, un peu leur parcours, ils sont passés eux-mêmes par des postes un peu de direction. Ou en tout cas des postes haut placés avant de se reconvertir en coach et du coup être légitime à devenir coach.
D'accord.
Donc je suis rentrée très vite dans mon professionnel en me disant ok bah alors ce qu'il faut faire c'est gravir les échelons le plus vite possible pour à 40 ans espérer devenir coach de dirigeant. Donc je suis un peu partie comme ça en mode ok à 40 ans l'objectif c'est d'avoir du coup je suis en mode directeur supply chain ou un équivalent pour pouvoir ensuite me reconvertir en coach de dirigeant. Et puis j'ai eu 28 ans.
Et tu t'es dit que c'était vachement long.
Voilà, 28 ans, j'avais gravi pas mal d'échelons, j'étais au stade déjà de manager, et je me dis, waouh, avant de devenir directeur supply chain, il y a encore pas mal d'étapes de manager au sein de la logistique, et il y avait aucun poste qui me faisait rêver, et 12 ans, c'était encore énorme, et je me suis dit, mais en fait, t'arriveras pas à tenir, faut que tu trouves une alternative. Première alternative que je me suis dit, parce que quand même toujours avec le « il faut faire des années d'expérience dans l'entreprise », c'est au lieu de viser le poste de directeur supply chain, vise le poste de directeur RH. Et donc, essaye de te reconvertir dans les RH, c'est plus humain, etc. Mmh. Donc, je suis un peu partie là-dessus au début. Et puis, en fait, en discutant avec des RH, je me suis rendu compte que c'était plus humain, mais c'était pas non plus ce que je recherchais. Ça restait très procédurier, très politique. Donc je me suis dit mince, enfin ça peut être une solution B, mais ça va pas non plus être l'amour fou côté RH. Et c'est là où je sais plus trop comment, mais j'ai découvert le coaching de vie. Et donc finalement des gens qui ont moins de 30 ans, qui peuvent être jeunes, qui ont pas forcément une grande expérience du monde professionnel, mais qui arrivent à coacher sur des thématiques plus de vie à travers des particuliers et donc pas l'entreprise. Et en fait quand j'ai découvert ça, j'avais de l'argent sur mon CPF, je me suis dit vas-y. Tu te fais une formation de coaching, tu découvres le coaching et tu verras ce que ça donne plus tard. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Et une fois qu'on met le pied dedans et qu'on fait le premier petit pas, après, il y a tout qui va vite et on veut plus s'arrêter. Donc, après, je me suis lancée en tant que coach en parallèle de mon job. Puis, j'ai quitté mon job et je me suis lancée du coup à 100% dans le coaching. Et pourquoi la reconversion professionnelle ? Parce que quand je regardais autour de moi, J'ai l'impression que 90% des gens sont mal dans leur job, 90% des gens se plaignent de leur job.
Mais oui.
Et ne passent pas forcément à l'action. Et ce qui est dommage, parce que une fois qu'on s'enlève toutes nos croyances, qu'on travaille nos peurs, etc., tout le monde pourrait trouver un travail qui lui plaît, tout le monde pourrait faire quelque chose qui lui plaît s'il s'en donne les moyens et s'il a le courage, en fait, d'oser. Et du coup, c'est comme ça que je veux inspirer, en fait, les personnes à travers mon coaching. C'est vraiment dire, mais en fait, c'est totalement possible, c'est à la portée de tout le monde. Si je l'ai fait, s'il y en a plein qui le font, c'est que c'est possible. Faut avoir du courage. Ça, c'est pas facile. Je dis pas le contraire. Mais vraiment, c'est possible. Et se lever le matin, excité à l'idée d'aller travailler, ça a pas de prix, quoi.
Je suis d'accord. Et justement, il y a une question qui me vient, parce que souvent, je pense que tu l'as, cette question, tes clients, clientes. C'est, mais je vais perdre en argent, enfin, en salaire. Est-ce que tu réponds à ça?
Ça, c'est le point numéro un de tout le monde. C'est, mais financièrement, comment je vais gérer? Et en fait, ce qu'on se rend compte, alors il y a plusieurs points. C'est que déjà, la peur, tant qu'on la creuse pas, on ne sait pas à quel point on parle d'argent financier. Par exemple, le métier de coaching, moi, je m'étais renseignée auprès de coach. Les trois premières personnes que j'ai eues au téléphone m'ont dit, c'est mort, tu peux pas gagner ta vie dans le coaching, c'est totalement bouché. Bref, c'est un truc à faire en loisir, mais tu vivras jamais ta vie du coaching. Heureusement que j'ai continué de creuser et j'ai trouvé des gens qui vivaient du coaching et je me suis dit, en fait, il faut que je me focalise sur ceux qui y en vivent. Et c'est un peu ça, quand on veut se reconvertir, c'est déjà se focaliser sur les personnes qui y arrivent et pas ceux qui y arrivent pas. Puisque des gens qui y arrivent pas, en effet, il y en a plein d'histoires de reconversion échouées qu'on peut trouver. Ce qu'il faut se focaliser, c'est sur ceux qui y réussissent et savoir comment ils ont fait pour réussir. Et se dire, si une personne a réussi à le faire, c'est que c'est possible et que je peux y arriver. Donc ça, c'est le premier mindset à se dire, c'est ok. Est-ce que vraiment tout le monde perd en niveau de salaire sur le métier que je veux aller ou est-ce qu'il est possible d'en vivre? Deuxième chose, c'est prendre conscience, ok, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il me faudrait exactement le même salaire, est-ce que c'est vraiment vrai? En général, on se rend compte, si on fait le point sur nos dépenses, qu'il y a des dépenses qu'on peut éviter, qu'on peut payer moins cher tel truc. Si vraiment on est motivé à travailler dans quelque chose qui nous plaît, est-ce qu'on n'est pas prêt, je sais pas, à prendre un appartement plus petit pour payer un loyer un peu moins cher et le temps de la transition, réussir du coup à baisser son besoin financier. Parce qu'encore une fois, en tout cas ce que je recommande quand on se reconvertit, c'est de se dire, ok, quel est le salaire cible que je veux avoir? On trouve toujours des solutions pour atteindre ce salaire cible. Ça peut être je slash entre différentes activités, je fais cette activité plus du revenu passif, je prévois telle évolution professionnelle pour pouvoir atteindre ce palier-là. Donc, ce qu'il faut, c'est juste la transition. Combien de temps je mets à atteindre ce palier qui est bon pour moi? Et cette transition, on sait qu'elle est temporaire. Donc, on parle de solution temporaire. Donc, c'est pour ça que je dis prendre un appart plus petit en disant c'est temporaire. C'est juste le temps d'arriver à mon salaire cible. Mmh. Et donc, quand on travaille en fait sur ses finances de cette manière-là, en disant quelles sont les solutions que je peux trouver temporairement pour pallier à cette baisse de salaire, on finit par les trouver. Le chômage, déjà, c'est une énorme aide pour tous ceux qui veulent se lancer dans des formations ou dans de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a de multiples façons d'obtenir le chômage qui fait que ça devrait pas être un frein. Pendant 2 ans, vous avez quand même 2 ans de chômage pour lancer votre activité. Ça permet quand même d'être assez sécurisé pour lancer quelque chose.
Une activité ou une formation pour...
Voilà, une activité, une formation. Pour moi, cette peur financière, c'est un faux problème parce qu'il existe des solutions à partir du moment où on les cherche. Mais si on s'arrête juste à la peur, on cherche pas les solutions, donc on les trouve pas. Et donc on se dit, ah non, mais alors moi, non, je veux pas baisser en salaire, puis j'ai un tel à côté de moi qui s'est reconverti et qui a baissé en salaire, et je le prends comme référence.
Oui, bah oui.
Donc voilà, c'est vraiment une histoire de mindset, et de se dire, en fait, si je veux y aller, je peux y aller, et il y a forcément un moyen financier d'y arriver.
Mais oui, et que tout n'est pas figé, du coup.
Exactement, tout n'est pas figé.
Et du coup, quels sont les bienfaits, selon toi, de cette reconversion, si tu sens que, par exemple, la personne en face de toi en a besoin?
Premier bienfait, c'est renouer avec la motivation au quotidien, c'est-à-dire avoir la motivation de se lever le matin, aller au travail. Et rien que ça impacte après tout le reste, ça impacte la vie personnelle, puisque quand on va mieux, on a plus envie de sortir, on a plus envie de voir les amis, on n'a pas honte d'être qui on est, donc on augmente aussi notre confiance en soi, notre estime de soi. Finalement, on dit, voilà, le pro, c'est différent du perso, on mélange pas. Mais le pro a un tel impact sur le perso, tout comme le perso a un tel impact sur le pro, qui fait que quand le pro va mieux, le perso, en général, va beaucoup mieux. J'ai pas mal de clientes qui sont mamans, par exemple, et qui vont dire au début, ah non, mais c'est un peu égoïste de penser à moi et de penser à me faire une reconversion, faut d'abord que je m'occupe de mes enfants, etc. Mais en fait, des enfants qui ont une mère qui est épanouie au travail... ils seront beaucoup plus heureux qu'avoir une mère qui revient, qui est épuisée, qui du coup est moitié là, moitié pas là, parce qu'elle est en train de penser à son boulot, etc. Qui fait que vraiment, le pro est lié au perso, et donc quand on va bien dans le pro, le perso, on est beaucoup plus détendu, on est beaucoup plus ouvert à ce qui nous arrive, et du coup, pour moi, le bienfait, il est vraiment à la fois sur le plan pro, où vous allez passer en moyenne 80 000 heures à travailler dans votre vie. Donc 80 000 heures non gaspillées, c'est quand même pas mal, 80 000 heures où on prend du plaisir, mais aussi le perso où on sera beaucoup plus détendu, moins stressé. Quand on est moins stressé, il y a aussi la santé qui va mieux, on mange plus équilibré, on profite plus de la vie, on fait plus de sport, on a du temps pour faire du sport, bref. Tout l'écosystème en fait personnel qui du coup va beaucoup mieux. Et tout comme on le sent, la personne qui en général veut se reconvertir, c'est qu'aujourd'hui ça va pas. C'est-à-dire que ça va pas dans son job, mais en général ça va pas aussi du coup dans sa vie personnelle. Soit elle a pas de temps pour sa vie personnelle, soit elle rentre le soir, elle est épuisée, elle est frustrée, elle devient irritable dès qu'on lui fait la moindre réflexion. Elle a plus envie de sortir parce qu'elle est fatiguée. Tout est lié, il y a un tel impact que c'est vraiment important pour moi de travailler sur être épanouie professionnellement. Même s'il y en a beaucoup qui vont dire « oui, c'est bon, un travail, c'est juste un travail, j'arrive à bien séparer les deux ». En vrai, on pense réussir à bien séparer les deux. Est-ce que dans les faits, on arrive vraiment à séparer les deux ? C'est la question que je pose à ceux qui pensent ça.
Ouais. Et du coup, tu parles de confiance en soi. Et justement, pour toi, qu'est-ce que la confiance en soi ?
Alors, c'est là où il y a confiance en soi et estime de soi qui est très différent. L'estime de soi, c'est la façon dont on se voit, la valeur qu'on se donne. Et la confiance en soi, c'est la capacité à passer à l'action. Du coup, on va dire, je peux avoir une très bonne estime de moi, donc j'estime que c'est une très bonne valeur, mais par contre, aucune confiance en moi pour me reconvertir dans tel métier parce que j'ai pas du tout l'impression d'avoir les compétences. Et à l'inverse, je peux avoir une faible estime de moi, c'est-à-dire que je pense que je suis très nulle, mais par contre, je suis confiante dans le fait que dans mon poste actuel, je suis très bonne. Je me pense être nulle de manière générale, mais sur telle tâche, j'ai confiance en moi sur le fait d'y arriver. Donc les deux sont très différents, mais en même temps liés. Et du coup, la confiance en soi, c'est vraiment cette capacité à passer à l'action.
Oui.
Et qui est nécessaire, du coup, quand on se reconvertit, d'avoir confiance dans sa capacité à justement réussir sa reconversion. Pourquoi beaucoup ne se reconvertissent pas ? On a parlé de la peur financière, oui. Mais aussi la peur de l'échec. C'est-à-dire, j'ai pas confiance en moi et j'ai peur d'échouer dans cette reconversion. Du coup, je préfère rester dans ma zone de confort, même si elle est inconfortable.
Ouais, c'est vrai qu'il y a la peur de l'échec. Par rapport à la reconversion, justement, comment vois-tu l'avenir du travail en France ? Pour toi, est-ce que c'est figé ? Les gens, par exemple, avant, on était dans un travail, on n'en bougeait pas.
Oui.
Quelle que soit notre envie d'y rester ou pas, on ne se posait même pas la question, je pense. Maintenant, est-ce que tu penses qu'on est plus amené à avoir plein de travail dans notre vie ? Différents,
alors, je pense qu'en effet, on est amené à se réinventer justement beaucoup plus qu'avant. Il y a plein de facteurs. Le premier, je pense, c'est si on prend un peu la pyramide de Maslow, pyramide des besoins. Avant, le besoin de sécurité, chez beaucoup, il était pas du tout rempli. Du coup, avant de penser à s'accomplir, il fallait déjà qu'on sécurise son travail, avoir un travail stable. C'est là où on disait, il faut absolument avoir un CDI. Le CDI, c'est le Graal, il faut que je sois stable, etc. Et j'ai besoin de cette sécurité et je penserai après, plus tard, à mon épanouissement. Mais là, c'est vraiment la sécurité. Aujourd'hui, on est dans un monde, en tout cas en France, dans les pays développés, où la sécurité, les trois quarts des gens l'ont. Le chômage, en ce moment, en plus, il est faible. Le marché de l'emploi, il est ultra dynamique. Tout le monde a cette sensation, du coup, de avoir un job, c'est faisable, ça ne me fait pas peur. Par contre, du coup, maintenant que je suis sécurisée sur mon besoin de sécurité, ce que je veux travailler, c'est ce besoin d'accomplissement. Donc, le besoin tout là-haut, c'est-à-dire me dire que ce que je fais, ça a du sens. Et c'est pour ça que les gens se questionnent beaucoup plus qu'avant, je pense. C'est parce que la majorité des personnes sont tellement sécurisées dans leur environnement de travail et financièrement qu'ils veulent aller à l'étape d'après. On est en plus dans un monde où on a toujours été en surconsommation. Aujourd'hui, ça atteint un peu ses limites. On se dit, ok, je travaille plus pour consommer plus, mais en même temps, à quoi ça sert ? Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de consommer plus ? Aujourd'hui, une fois qu'on a un frigo, un lave-vaisselle, etc., est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 4 iPads, 6 voitures ? Non, on arrive un peu à un stade. On a tout ce qu'il nous faut au niveau matériel pour être heureux. On n'a pas besoin de plus. Du coup, on se dit, mais ça sert à quoi de, en plus, gagner plus, gagner plus, gagner plus ? Je suis largement bien avec ce que j'ai. Du coup, ce que je préfère, c'est trouver du sens. Donc, il y a tout ce contexte qui fait que les personnes vont beaucoup plus chercher du sens. Et chercher du sens, du coup, ça veut dire se remettre en question. Et malheureusement, dans notre système scolaire aujourd'hui, on nous apprend pas à trouver vraiment le métier qui fait du sens, etc. pour nous. Ouais. On nous apprend à, tu vas trouver un métier qui rapporte de l'argent.
C'est ça.
Et pas un métier qui te plaît. D'ailleurs, en général, autour de nous, quand nos parents ou autres nous parlent, c'est fais des études pour avoir un travail, pour avoir de l'argent, pour acheter une maison. C'est n'importe quoi. À aucun moment, il y a écrit fais des études pour faire un travail qui te plaît. Alors que ça devrait être le cœur du sujet. Fais un travail qui te plaît et l'argent vient suivra. Et pas faire un travail pour de l'argent et le plaisir arrivera après. Le plaisir, il vient pas après. D'abord, on se focalise sur le plaisir et après, l'argent vient. Donc, avec tout ce contexte-là, c'est sûr pour moi que la quête de sens, elle est primordiale. Et que du coup, tous les bullshit jobs qui se créent un peu partout, donc les bullshit jobs, c'est les jobs qui servent un peu à rien, ou dans l'entreprise, il a fallu mettre un manager de manager de manager pour caser quelqu'un et avoir une belle pyramide, ça commence à perdre totalement son sens. Les gens veulent des métiers qui font sens, qui ont un impact, et de plus en plus un impact positif sur la planète. Il y a la notion de RSE, d'écologie, etc., qui devient de plus en plus importante. Parce que c'est ce qui fait sens pour la plupart des gens, c'est de se dire « j'aide un peu à sauver l'humanité ». C'est un peu la meilleure mission du monde de se dire que dans mon quotidien, je sauve l'humanité. Donc si les gens cherchent de plus en plus de sens, donc ils vont de plus en plus bouger parce que l'entreprise, elle met du temps aussi à s'adapter. Beaucoup d'entreprises s'adaptent, mais bon, pas encore assez vite. Donc aujourd'hui, on a ce décalage un peu entre le salarié et les entreprises qui bougent comme elles peuvent, mais il y a la notion aussi économie, forcément, il faut faire de l'argent, etc. Toutes les entreprises ne peuvent pas devenir des ONG du jour au lendemain. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de turnover, beaucoup de gens qui se posent des questions, beaucoup de gens qui se réinventent, et je pense que c'est pas prêt de changer. Les entreprises commencent à changer pour que, justement, je pense, un peu plus stabiliser et garder les employés, mais il y a un autre facteur aussi, qui est que le monde bouge ultra rapidement tout le temps. Et du coup, les jobs qui existent aujourd'hui sont pas ceux qui existeront demain. Et donc, quoi qu'il arrive, va falloir se réinventer. J'ai n'importe quoi. Un job de secrétaire, il y a 20 ans, c'est plus du tout le même que celui d'aujourd'hui. Et il y a plein de jobs comme ça. La caissière, aujourd'hui, avec les caissières automatiques, etc., c'est plus les mêmes jobs. Donc, il y a plein de jobs qui évoluent comme ça, qui sont encore amenés à évoluer. Et du coup, de fait, il va falloir avoir cette capacité à se réinventer constamment. Parce que on n'est jamais sûr que son job actuel reste exactement le même demain. Donc voilà un peu ma vision du monde du travail. C'est surtout beaucoup, beaucoup de changements, mais à tous les niveaux. Et donc, va falloir être capable de bien s'adapter, mais sans s'oublier.
Ouais, ça en fait du travail. Ouais. Tu as répondu à la question que je me demandais. Est-ce que pour toi, on se reconvertit une fois, comme ce qui est un peu le cas là, dans les années qu'on vit. Mais en fait, finalement, on va potentiellement vers quelque chose où on se reconvertit encore plusieurs fois dans notre vie.
Ouais, exactement. Mais rien que parce que une fois qu'on cherche du sens, personnellement, à titre personnel, on va évoluer. On va avoir des priorités qui vont être différentes. Je dis n'importe quoi, quand on n'a pas d'enfants, quand on a des enfants et quand les enfants quittent la maison, c'est pas du tout les mêmes priorités. À l'instant T, je vais me dire que c'est ce poste-là, ce job-là qui me convient parce que j'ai ça comme priorité dans ma vie, j'ai ça comme contrainte, etc. Dans 5 ans, les contraintes changent, les priorités changent. Je vais peut-être vouloir faire un autre poste parce que mon écosystème personnel a changé. Donc rien que de base, si on veut être constamment aligné avec qui on est et trouver un job qui nous plaît, c'est normal de changer d'avis. C'est normal que, je dis n'importe quoi, aujourd'hui le métier de coach me convient très bien. Demain, j'aurais peut-être envie de faire un autre métier parce que, je dis n'importe quoi, être à mon compte finalement ne me conviendra plus et que je veux retrouver une grosse structure pour être plus posé ou autre, et dans ces cas-là, peut-être rechanger. Donc, faut vraiment s'écouter constamment, et on parlait tout à l'heure des petits signes. Dès que je sens que j'ai plus la motivation à me lever le matin, me poser la question. Ça vient d'où? Quelle est la source? Pour voir s'il y a besoin de se réinventer, changer d'environnement, ou se reconvertir totalement. Bref, essayer de s'écouter constamment.
Ok. Pour finir un peu, j'ai 2-3 petites questions en plus. Ouais. Est-ce que tu aurais un livre, un film ou une série à nous recommander?
Alors, un livre, moi, c'est un peu le livre qui m'a fait passer à l'action, en tout cas, dans ma reconversion, qui m'a fait un peu dire, ok, je suis maître de ma vie. Je lis avec des pincettes parce que je sais qu'il est très controversé, c'est de Tony Robbins, un grand du développement personnel américain, qui a ce défaut d'être très américain et très, tout est possible, si tu veux, tu peux, etc.
Ouais.
Donc, quand je conseille ce livre-là, il y en a certains qui reviennent vers moi en mode, non, mais c'est un peu bullshit, c'est un peu trop, si tu veux, si tu peux. Mais si on va au-delà de ce côté américain du livre, son livre qui s'appelle « Pouvoir illimité » a un contenu qui est vraiment, je trouve, ultra puissant et une base qui est ultra impactante pour justement entrer dans le changement, passer à l'action et se dire voilà, je suis maître de ma vie, je reprends ma vie et je peux agir sur ma vie, j'ai toutes les capacités en moi pour agir sur ma vie, et je fixe mes objectifs et je passe à l'action. Et moi, c'est vraiment ce livre-là qui m'a aidé à me dire je fixe mes objectifs, qu'est-ce que je veux, et je passe à l'action et j'en suis capable. Mais je suis d'accord qu'il a ce côté très américain, un peu too much, de tout est possible, tout est simple, alors qu'en vrai, c'est plus compliqué que ça. Ça, je le nie pas. C'est pour ça que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. Il y en a qui, ça va énerver ce côté américain. Quand on le lit, je trouve, avec un peu de recul.
Oui,
mais
voilà.
Le contenu et les astuces, exercices qu'il donne sont vraiment bien, je trouve.
Top. Je le mettrai dans la description de l'épisode.
Ouais.
Quelle est ta philosophie de vie?
Ma philosophie de vie, contrairement à ce que je viens de dire, je suis peut-être un peu paradoxale dans ce que je viens de dire, mais c'est si tu veux, tu peux. Alors, je sais que c'est pas si simple. Je sais que c'est pas si simple que ça, donc j'y ajoute un peu un côté pragmatique derrière. Mais pour moi, en fait, on est notre premier frein. C'est-à-dire que le fait qu'on n'arrive pas à faire les choses, c'est parce qu'on dit que c'est impossible.
Oui, dans ce
et
sens-là.
Et si on se donne même pas l'opportunité d'imaginer que c'est possible, forcément, ça va jamais arriver. Donc, j'adore cette philosophie de si on veut, on peut, même si je sais que ça marche pas toujours et que tout n'est pas rose et facile dans le monde des bisounours comme ça. Mais au moins, se donner la possibilité de se dire c'est possible, je le veux, et je vais voir comment je vais pouvoir y arriver. Peut-être que j'y arriverai pas, mais si j'essaye pas, en fait, c'est sûr que j'y arriverai pas. Je dis n'importe quoi. Moi, au début, quand je me disais que le coaching c'était pas possible, bah, j'y arrivais pas. En effet, je me disais que c'était pas possible. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à me dire « Ok, et si c'était possible ?» que j'ai trouvé les solutions et que j'ai pu y aller. Donc, c'est vraiment cette philosophie de vie de se dire, au lieu de dire « C'est pas possible », se dire « Ok, si c'était possible, ce serait quoi le premier pas ? Comment ça se passerait ? Comment je pourrais y arriver ?» Et en fait, en s'imaginant que c'est possible, on va finalement rendre la chose potentiellement possible.
Du coup, tu dirais pas plutôt « Quand on veut, on peut essayer ?»
Quand on veut, on peut essayer, oui.
C'est vrai que c'est pas très...
C'est un peu moins vendeur.
Ouais, c'est un peu moins vendeur, c'est vrai. J'avoue. Est-ce que tu aurais une citation qui marche bien chez toi?
Ouais, alors toujours un peu dans cette notion de si on veut, on peut. Mais c'est le plus grand échec est de ne pas oser. C'est-à-dire que, en fait, le fait de dire j'y vais pas parce que j'ai peur de l'échec, eh ben, c'est le plus grand échec. Mieux vaut essayer d'y aller. Et potentiellement échouer, mais au moins on aura essayé. Et rien que ça, pour moi, ça a pas de prix, c'est justement cette notion d'essayer. Si on n'essaie pas, ça c'est un échec. Si on essaye et qu'on échoue, entre guillemets, pour moi, ce n'est pas un échec.
Ok.
Puisqu'on apprend, on se développe, et on en sort forcément quelque chose.
J'aime beaucoup. Une dernière petite question, qu'est-ce que t'évoque le nom Vert d'eau pour toi?
Ça, c'est une très bonne question, ça. T'aurais dû me la préparer, celle-là, à l'avance.
Ah non, justement, on fait appel à toi. En live, là.
Verre d'eau, moi, je pense directement au verre d'eau moitié vide, moitié plein. Et du coup, la perception de comment tu vois ce verre d'eau. Et notamment, en tant que force optimiste, mieux vaut voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce que mieux vaut voir le côté positif que le côté négatif. Et c'est un peu ce que m'évoque, du coup, verre d'eau. C'est ce verre qu'on aurait devant nous et qu'on se dit, OK, comment je le considère? Je le considère déjà bien rempli. Je peux le remplir encore plus pour aller encore plus loin. Mais surtout, je ne focalise pas sur ce vide. Je focalise sur les forces et du coup, sur la partie remplie. Et après, comment combler le vide pour le remplir encore plus. Voilà ce que ça m'évoquerait, verre d'eau comme ça.
Beaucoup de positivité. Très bien. J'ai fini avec mes questions. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter?
Non, je rajouterais juste s'il y en a en effet qui hésitent à se reconvertir ou qui se sentent mal dans leur job, c'est vraiment oser. Oser passer à l'action. Oser imaginer que c'est possible d'avoir un job que vous aimez. Oser imaginer que c'est possible de vivre du job dont vous rêvez. Et juste autorisez-vous vraiment à imaginer que c'est possible et regardez ensuite comment rendre la chose possible. Mais autorisez-vous parce que clairement, c'est possible de se lever le matin, exciter d'aller travailler. T'en as un exemple, j'en suis un exemple, il y en a plein des exemples. Donc vraiment, c'est pas juste les autres. On pense souvent que pour les autres, c'est plus simple. Moi, j'ai telle contrainte, j'ai un prêt à payer, j'ai plein de trucs. On a tous des contraintes. Et ce qui fait la différence, c'est ceux qui osent de ceux qui n'osent pas.
Très bonne conclusion. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'être venu.
Et avec grand plaisir. C'était un plaisir d'échanger ensemble et j'espère que ça aura apporté plus d'une piste à ceux qui se posent des questions sur la reconversion.
Bah, c'est le but, justement. Bah, merci beaucoup et peut-être qu'on se verra.
Sur Grenoble, ouais. Ah ouais. Carrément.
Je te souhaite une belle journée.
Bonne journée à toi aussi.
L'épisode est terminé. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vers d'eau est produit par Positive Studio, réalisé et monté par moi-même, et la musique est créée par Escoast. Tu trouveras les liens dans la description de l'épisode. Si tu apprécies mon podcast, je t'invite à mettre une super note ou un commentaire bienveillant sur ta plateforme d'écoute, car cela m'aidera à faire connaître Vers d'eau le plus possible et toucher plus de personnes. Si c'est déjà fait, je t'en remercie. Tu peux également me suivre et échanger avec moi sur mon compte Instagram @joe-cafe-noisette. Si tu souhaites un récap de l'épisode, tu le trouveras sur mon blog, dans l'atelier de Joe. Le lien est dans le descriptif. Voilà, je te dis à jeudi dans 2 semaines, et en attendant, n'oublie pas de boire un grand verre d'eau.